Liberté Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à la 19e conférence internationale sur le sida qui se déroule en ce moment à Washington et nous parlons des co-infections VIH-sida, tuberculose et hépatite, des maladies qui touchent aussi largement les usagers de drogue avec des difficultés pour mettre en place des programmes de prévention, des programmes de réduction des risques. Avec nous pour en parler le professeur Kazatchkine, qui est ancien directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il est émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le sida en Europe de l'Est et Asie centrale, Olivier Maguet de Médecins du Monde, le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris, et le docteur Karim Diop, coordinateur du programme Esther au Sénégal. Avant de donner la parole au docteur Karim Diop, juste professeur Kazatchkine, j'aimerais bien une réaction par rapport à ce que nous a expliqué Olivier Maguet dans la première partie de cette émission sur ces programmes de réduction des risques. C'est ce que vous voudriez que soit mis en place finalement dans un certain nombre de pays?
Bien entendu, comme l'a rappelé Olivier, la réduction des risques, c'est l'intervention de prévention de l'infection du VIH dont on sait qu'elle est efficace dans la très 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 grande majorité des cas, dans nos pays, en France et dans les pays d'Europe de l'Ouest, il n'y a pratiquement plus, moins de 2% des nouvelles infections du VIH surviennent chez des usagers de drogue. Et encore une fois, ces programmes qui n'ont pas pour objet d'arrêter la toxicomanie, ces programmes sont là pour réduire les risques de santé liés à l'usage de drogue chez ces personnes. Et de très loin, dans beaucoup de pays du monde, ce sont des programmes qui ont permis la réinsertion sociale, qui ont permis le bien-être physique, l'accès au traitement. Et c'est la solution. Solution qui, pour l'instant, est encore lointaine dans les pays.
Ça veut dire que vous avez
l'Est.
Du mal à convaincre sur le fait que c'est la solution?
Beaucoup de mal à convaincre, car c'est un sujet hautement politique. Beaucoup de pays dans le monde, et singulièrement en Europe de l'Est et en Asie centrale, considèrent que que la méthadone est un opiacé. Et donc disent qu'ils refusent, voilà, qu'un État apporte lui-même une drogue à des consommateurs de drogue. Mais derrière cette attitude, il y a d'abord beaucoup de rigidité politique, il y a des enjeux économiques et il y a beaucoup d'hypocrisie.
Docteur Karim Diop, vous allez nous dire justement ce qui se fait au Sénégal. Vous êtes coordinateur du programme Esther dans ce pays. Alors vous avez, d'abord j'aimerais bien vous demander, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre d'usagers de drogue au Sénégal? On a une idée?
Voilà, donc il y a une étude qui a été menée avec l'ANRS, donc l'enquête 12-243, qui a été menée donc en 2011 et qui a permis de sortir les résultats suivants. D'abord, on a une population d'études qu'on a estimée à 1324 personnes. Donc, c'est une enquête qui a été menée à Dakar pour mesurer la prévalence de l'hépatite B, l'hépatite C et du VIH. Le deuxième point important de cette étude, c'est qu'on a démontré un usage important d'héroïne chez plus de 80% des personnes qui identifient l'héroïne comme étant le produit le plus important. On a identifié, donc, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, des pratiques à risque, à savoir l'échange, le partage de seringues, etc. Et on a pu démontrer une prévalence de l'hépatite C de 23,7%. Et elle est de 38,9% chez les injecteurs. On a une prévalence également du VIH de 4,4%.
Donc 4 fois plus qu'au Sénégal, à peu
oui,
près.
Donc la prévalence moyenne, c'est, d'après l'enquête démocratique de santé, c'est 0,7%. Et on a 9,4% chez les injecteurs.
D'accord. Voilà. Alors après cette étude, qu'est-ce que vous allez faire?
Alors, cette étude, déjà, elle met en exergue l'utilisation de drogue, l'existence, et des problèmes de santé publique clairs, nets, et également liés à ces notions de co-infection. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons à mettre en place ces programmes de réduction de risques importants, mais également la mise en place prochaine d'un centre de prise en charge de traitement de substitution.
Professeur Kazatchkine, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir et compléter ce qui vient d'être dit par le fait que l'une des choses que nous apprenons à cette conférence, mais on le savait déjà, on commençait à le savoir à Vienne, c'est que l'usage de drogue non seulement existe, mais s'accroît sur le continent africain, et le trafic aussi, les zones côtières d'Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou en Afrique australe, sont maintenant des hubs utilisés par les trafiquants d'Amérique latine pour faire venir la drogue en Europe.
Et du coup, il y a des usagers maintenant qui se développent en Afrique, hein, c'est ça la conséquence.
Je me souviens d'être allé à Tombouctou, avant la crise actuelle, au cœur du désert, mais bien sûr un centre économique et de transfert depuis le 15e siècle. Et à Tombouctou, il y avait de nouveaux cas d'infection VIH survenus dans les deux dernières années parmi des usagers de drogue.
Alors deux réactions, Olivier Maguet et après
et
le docteur Diop.
La même route sur l'Est avec l'héroïne qui arrive via le Pakistan, en Afghanistan et un peu de Birmanie, donc, et avec les mêmes conséquences, les mêmes effets en termes de consommation locale.
Docteur
Je voudrais ajouter qu'au-delà de ces circuits d'approvisionnement qui transitent par les pays limitrophes, on avait également identifié deux générations d'utilisateurs. Une première génération qui a commencé son usage en France. Et c'est la raison pour laquelle on a une moyenne d'âge de 43 ans chez les hommes, parce que c'est une première génération qui a commencé une utilisation en Europe et qui ensuite est revenue au pays. Et ensuite, on a une deuxième utilisation d'utilisateurs. Ça fait partie des résultats des enseignements de l'enquête.
Docteur Karim Diop, je voudrais qu'on revienne sur le programme de réduction des risques que vous allez mettre en place au Sénégal. Est-ce qu'il va y avoir exactement ce que nous a expliqué Olivier Maguet avec un échange de seringues, une mise à disposition de la méthadone? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour convaincre le gouvernement sénégalais d'accepter que vous mettiez ça en place?
Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Il faut prendre avec beaucoup de précautions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons suivi un certain nombre d'étapes. La première, c'est dans le cadre de l'étude, évidemment, sans passer par le comité éthique. Il y a eu beaucoup de questions qui ont permis de pouvoir identifier certains éléments. Le deuxième également, ça a été de pouvoir faire des plaidoyers progressifs, notamment des ateliers qu'on a organisés à Grand Bassam et à Dakar, qui ont permis d'associer les différents intervenants. Notamment ce qu'on appelle le comité interministériel de lutte contre la drogue, qui est dirigé par le ministère de l'Intérieur. Ça a été le premier point important. Le deuxième, ça a été de pouvoir introduire la méthadone sur la liste des médicaments essentiels du Sénégal.
Donc ça, c'est bon, c'est fait ?
C'est fait.
Donc, vous allez pouvoir donner cette méthadone dans votre programme de réduction des risques, Esther ?
Alors, le programme de réduction des risques est un pas. La méthadone, c'est plus du traitement, hein. Mais dans le programme de réduction du risque, il y a des éléments qui vont dans le cadre de l'information. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place une post-enquête où ce sont des enquêteurs qui vont sur le terrain. Et sur le terrain, ils ont un programme de communication. Et on s'est beaucoup inspiré, et ça, grâce à Esther, on a pu organiser des voyages d'études au Maroc, où on s'est inspiré de l'expérience marocaine avec qui nous partageons beaucoup de similarités. Et on a vu le rôle des enquêtes sur le terrain, l'échange de seringues qui est réalisé, la dotation, la communication, les bonnes pratiques. Et donc ça également.
Le Maroc qui a bien avancé dans ce domaine.
Absolument.
Et donc vous allez faire l'échange de seringues concrètement? Je sens que c'est difficile de dire très concrètement ce que vous allez faire. Non, je me trompe, docteur Diop?
Non, l'échange de seringues c'est prévu. Mais
de choquer le public en fait en disant ça?
C'est difficile parce qu'à chaque fois qu'on en parle, il y a toujours des réticences, il faut expliquer.
Qu'est-ce qu'il y a? On vous dit, mais vous allez les inciter à utiliser la drogue.
C'est la première réaction. Le médecin, les infirmiers, la première réaction, c'est évidemment un choc de dire pourquoi.
On va pas les aider à se droguer. Voilà. Docteur Kazatchkine, professeur Kazatchkine, mais en France, il y a eu exactement les mêmes réticences,
bien
et encore
sûr,
aujourd'hui.
Il y a eu ces réticences. Moi, je me souviens de la mise en place, d'ailleurs, par Médecins du Monde, du premier appareil échangé de seringues près de la gare de l'Est à la fin des années 80, le second à l'hôpital Brousset. Ces débats sont partout, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cet échange de seringues a été prôné depuis maintenant 30 ans et on a des études scientifiques menées dans de nombreux endroits du monde qui montrent que l'échange de seringues n'amplifie en rien l'accès à l'usage. Donc il s'agit encore de préconceptions et il s'agit malheureusement souvent de la part des politiques d'idéologie ou de complaisance vis-à-vis de préconceptions publiques dans l'opinion plutôt véritablement que d'aller là où la science nous dit d'aller.
Faut convaincre l'opinion publique. Absolument. C'est bien l'objectif de cette émission dans ces cas-là, Olivier Maguet.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, après effectivement de multiples résistances, les agences du système des Nations Unies en 2009, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, le programme de lutte contre les drogues et la criminalité qui est basé à Vienne, qui dépend des Nations Unies, le programme conjoint de lutte contre le SIDA ont décidé de façon commune de rédiger un guide technique à l'attention des États qui souhaitent mettre en place ces dispositifs-là. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui est non seulement basé sur des évidences scientifiques et des expériences qui ont eu lieu dans des pays avec des contextes très différents, mais où toujours nous avons rencontré les mêmes résistances, mais surtout sont validées institutionnellement, y compris par ce que l'on appelle les décideurs publics.
Une réaction, professeur Molina ?
Oui, écoutez, je crois que ce sujet, en tout cas, de la co-infection entre le VIH-Sida et l'hépatite est un sujet qui est extrêmement important également dans le domaine thérapeutique et de la recherche. Et la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le Sida, a bien pris la mesure de cet enjeu en créant d'ailleurs un groupe spécialement chargé de mener des programmes de recherche dans ce domaine. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que dans le domaine du traitement d'hépatite C, comme ça a été le cas dans le cas du traitement du VIH-Sida, nous faisons des progrès extrêmement rapides avec des innovations thérapeutiques tout à fait intéressantes qui laissent espérer effectivement pour les personnes atteintes par cette infection, par le virus de l'hépatite C, des traitements beaucoup plus efficaces, beaucoup plus courts et beaucoup mieux tolérés dans les prochains mois, les prochaines années. Donc il y a véritablement dans ce domaine de l'hépatite C un message d'espoir également pour les personnes atteintes, dans la mesure où nous sommes dans une phase actuellement de la recherche qui laisse espérer des progrès tout à fait considérables et de franchir un cap en quelque sorte dans le cadre des traitements, comme je le disais, de leur efficacité, de leur tolérance.
Olivier Maguet, une réaction par rapport à ça, parce que Médecins du Monde, là, vous vous mobilisez sur la question du coût de ce traitement qui est encore très très cher.
Oui, plus que cher, elle est complètement inabordable. Pourquoi nous mobilisons-nous ? Je vais répondre à votre question. J'aimerais donner un chiffre. Nous avons commencé cette émission par des taux de couverture en traitement antirétroviral, une moyenne mondiale donc de 55%. Les usagers de drogue sur le continent africain, parmi pour 100 usagers de drogue injectable qui sont en besoin de traitement, il n'y en a que 4 qui ont réellement accès. 4%. Donc on revient bien sur ces phénomènes de disparité dont on parlait. Et l'étude du Sénégal montre bien qu'a priori, dans les quelques endroits où nous avons ces données-là, nous avons en Tanzanie aussi, la prévalence de l'hépatite C est plus élevée. Donc il y a des besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi nous y allons ? Dans les programmes de Médecins du Monde, mais je pense que c'est le cas dans tous les programmes qui accueillent aujourd'hui et qui prennent en charge des usagers de drogue, nous arrivons à faire des progrès, effectivement, en matière de maintien en vie d'une certaine qualité de vie par rapport au VIH-Sida. Et nous assistons aujourd'hui à des gens qui meurent, disons, 20 ans après une infection par l'hépatite C, d'une cirrhose, un hépatocarcinome, etc. Nous allons avoir des sérieux problèmes pour justifier, y compris nos actions. Et ça fera peut-être écho à la question des financements dont nous parlons tout à l'heure. Comment pourrons-nous continuer à justifier l'efficacité de nos interventions si nous laissons, finalement, mourir, faute de traitement, des gens que nous avons réussi à inscrire dans les processus de prise en charge sur le sida. Donc il faut effectivement se battre pour un accès. Alors, utiliser les acquis de la lutte contre le sida pour mettre en place ce que l'on appelle un plaidoyer global, un plaidoyer mondial, qui a vocation à terme à arriver au même résultat que ce que nous avons obtenu collectivement sur la question du VIH au tournant des années 2000.
Donc faciliter l'accès au traitement contre l'hépatite C. Aujourd'hui, Priorité Santé est à la conférence internationale sur le sida à Washington. On parle des co-infections, VIH, sida, tuberculose et hépatite, et de la question des usagers de drogue. Professeur Kazatchkine, qu'est-ce que vous voudriez que soit mis en place en Europe de l'Est et en Asie centrale? Je l'ai dit, vous êtes émissaire maintenant du secrétaire général de l'ONU sur ces questions-là, sur les questions de sida dans cette région. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux usagers de drogue? Mettre en place les programmes de réduction des risques, comme va le faire le docteur Diop au Sénégal?
Impossible. En tout cas dans certains pays, puisque la méthadone est illégale. Les quelques sites pilotes que nous avions connus se sont arrêtés. Les sites d'information sur ces sujets sur le web ont été fermés. On est actuellement dans une rigidification de l'attitude politique sur ces questions. Alors, d'une façon plus générale, je dirais qu'il faut accroître l'information du public, mobiliser la société civile qui est très courageuse dans cette région et les communautés. Et il y a de nombreuses fondations et des organisations internationales qui financent le plaidoyer dans la société civile. Il faut essayer de modifier l'attitude des médecins et des scientifiques eux-mêmes, qui sont un obstacle, puisque l'Académie des sciences, dans la Fédération de Russie, dit que la méthadone est une autre addiction et ne reconnaît pas les bénéfices de ce traitement. Il faut bien sûr essayer d'influencer en général dans le monde sur les politiques publiques en matière de santé des usagers de drogue, essayer de décriminaliser l'usage pour faciliter l'accès aux soins, et puis il faut entamer un dialogue politique. Ce n'est pas simple, mais ces pays-là ne pourront pas continuer à être une sorte d'île isolée dans leur conception au sein d'un monde qui évolue rapidement avec des résultats qui, cela a été rappelé tout à l'heure, nous montrent qu'on doit pouvoir, sans aucun doute, arrêter l'épidémie quand elle est dépendante de l'usage de drogue.
Olivier Maguet, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites avec Médecins du Monde pour mettre en place ces programmes de réduction des risques en Afrique, justement ?
Il est temps d'agir. C'est pour cette raison que nous avons ouvert le premier programme d'échange de seringues sur le continent africain en Tanzanie, à Dar es Salaam, très exactement, dans un district, le district de Temeke, où, pour information, 67% des femmes usagères de drogue par voie injectable étaient séropositives au moment de l'ouverture de ce programme, suite à une évaluation, un diagnostic répondant aux précautions scientifiques qui ont été utilisées dans l'étude sénégalaise. Donc là encore, évidence supplémentaire qu'il est plus que temps d'agir.
Alors, pour prendre l'exemple de Dar es Salaam, donc il y a un programme d'échange de seringues. Ouais. Est-ce que la méthadone aussi est disponible ou pas?
La méthadone est disponible par une autre voie, c'est-à-dire dans le cadre de la prise en charge hospitalière et d'un projet de recherche, puisque malgré toutes les évidences qui existent sur la méthadone, elle suscite localement des inquiétudes. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est, surtout l'Asie centrale, en est un bon exemple. Je peux comprendre que pour un décideur public local ou une population locale, elle peut susciter aussi des inquiétudes. Donc il est toujours important, et tous collectivement, nous en sommes conscients, de localement continuer à en produire ces évidences. Ne pas perdre trop de temps non plus. Donc aujourd'hui, la méthadone existe dans le cadre d'un projet pilote à l'hôpital de référence du district de Temeke. Et il y a aujourd'hui 400 personnes en traitement méthadone. Nous avons à peu près 1000 usagers de drogue par voie injectable qui bénéficient des autres services de réduction des risques dans le cadre de notre programme. Et nous sommes aussi présents à ce type de conférences pour communiquer collectivement autour de ces résultats de façon à faire avancer. Et on s'aperçoit que sur les dimensions en termes d'insertion sociale, d'état de santé général, de baisse de la criminalité, ça c'est important aussi parce qu'on associe l'usager de drogue à un criminel et donc à des comportements criminels. Et en fait, c'est plutôt le statut légal qui renvoie à l'illégalité et donc à la nécessité de se procurer des ressources liées à ce statut illégal. Un des impacts immédiats et majeurs, c'est la réduction de la criminalité au sein de cette population. Donc nous constatons, et les premières études seront publiées sur le programme méthadone dans quelques mois, je pense, en Tanzanie, nous constatons les mêmes résultats qu'ailleurs d'une amélioration globale de l'état de santé et de la socialisation des personnes.
Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Afrique que vous êtes en train de mettre en place ce programme de réduction
des
risques?
Alors, avec nos collègues sénégalais, justement, et ça répondra peut-être à votre question, l'idée, c'est aussi de travailler en bonne intelligence et de se partager les tâches. Donc, aux professionnels médicaux et, si possible, dans le cadre de la prise en charge publique hospitalière, de proposer aux patients ces traitements dont nous parlions, de substitution, et puis aux acteurs de la société civile, surtout si l'on veut aller toucher des populations qui sont extrêmement éloignées aujourd'hui des systèmes de soins, comme le rappelait Michel, de prendre leur bâton pèlerin, mais leur sac à dos, et d'aller proposer ces programmes d'information, de mise à disposition de seringues. Donc là, nous travaillons avec l'équipe qui a bossé sur l'enquête UTSEN, auquel faisait référence notre collègue, Sénégal, Côte d'Ivoire, Kenya, Tanzanie, en Afrique aussi, l'usophone. Et l'idée, c'est de proposer au continent africain, c'est ça qui est important et je terminerai là, des plateformes techniques, de ressources, d'évidence, pour rassurer, pour dire oui, dans ce contexte-là, cela marche aussi. Que l'on soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique lusophone, il est possible de faire quelque chose sans qu'on ait le sentiment de faire une sorte de copier-coller d'innovations qui ont été mises en place dans des environnements qui ne nous correspondent pas, avec des programmes qui sont portés par des staffs et des professionnels locaux. Voilà le projet sur les 5 ans à venir.
Docteur Karim Diop, de façon très concrète, ce programme de réduction des risques au Sénégal, il démarre quand ?
Il va démarrer très bientôt. Je pense qu'aujourd'hui déjà, on a démarré parce que l'enquête, les équipes de terrain sont mises en place et vont voir les usagers pour développer des méthodes de prévention. Déjà, je crois que le travail a démarré. Le centre devrait être mis en place en 2013 au plus tard. Donc, moi, je pense qu'on est déjà dans le vif du sujet. On a commencé cette campagne de communication, de prévention et d'éducation. Et je crois qu'il y a un élément également qui ressort beaucoup, c'est quand on va voir les usagers, c'est le besoin de la méthadone. Vraiment, c'est une question qui ressort toujours. On aura quand la méthadone ? Ils ont envie de sortir, comme on dit, de ce cercle. Et on a un intérêt de santé publique, comme je l'ai dit. Nous faisons face à des populations passerelles qui sont encore socialisées. Et donc, il faut prendre à bras le corps, effectivement, ce phénomène et trouver les solutions qu'il faut. Mais la réduction des risques a démarré.
Les usagers de drogue, donc au Sénégal, ont entendu parler de ce traitement à la méthadone. Ils savent que ça existe.
Absolument.
Ça se sait dans la population.
C'est vraiment une demande. Les équipes de terrain, lorsqu'elles font leur réunion hebdomadaire, nous ramènent ces éléments-là. Et je rappelle également que dans le cas de la restitution, il y a une restitution qui a été faite auprès des usagers. Également, depuis la fin de l'enquête, les usagers ont la possibilité de venir au centre une fois par semaine où ils reçoivent des traitements. Par exemple, ceux qui ont été identifiés VIH ou VIHB sont traités. C'est plus compliqué pour le VIHC, comme on l'a dit. Et c'est une question qui nous taraude l'esprit, nous, hein, parce que on se dit qu'il faut absolument les traiter. On a identifié et il faut aussi traiter. Et le traitement est très, très inaccessible. Ça fait partie des éléments de plaidoyer.
Un mot de conclusion, si vous le voulez bien, un dernier tour de table pour terminer cette émission. Olivier Maguet, peut-être, vous voulez commencer ?
Je crois que les enjeux, enfin quelques enjeux en tous les cas sont fixés. L'enjeu du développement de la réponse réduction des risques et de l'inscription donc à l'agenda régional sur le continent africain. Collectivement, nous devons tous y aller. L'enjeu très général de monter une coalition de plaidoyer mondiale pour passer de la parole aux actes en matière d'accès à un traitement efficace. Sur le VIH, j'aimerais quand même pour conclure rappeler une chose. Le VIH, alors certes, on a énormément progressé et les réductions de charge virale sont là pour en témoigner. À la différence du VIH, le traitement hépatite C, lorsqu'il marche, on guérit de l'hépatite C.
C'est important de le préciser, ce qui n'est pas encore le cas sur le sida,
alors,
absolument.
Attention, il y a des précautions à prendre selon les génotypes, c'est-à-dire la nature du virus, etc., la qualité de la prise en charge, évidemment, parce que aussi les compétences professionnelles pour prendre en charge une hépatite C chronique sont différentes de celles du VIH, sont un peu plus élaborées, y compris sur le suivi technique, j'ai envie de dire. Mais c'est bien de le rappeler. Et c'est bien de rappeler qu'il y a 170 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le virus de l'hépatite C, dont 70% d'entre eux sont usagers de drogue, c'est-à-dire rencontrent tous ces problèmes de non-accès aux soins aujourd'hui, versus, et je ne veux pas faire de compétition et de concurrence malsaine entre les pathologies, versus 30 millions avec le VIH. Donc du coup, on a cet enjeu-là auquel collectivement il faut s'en emparer. C'est le sens de l'appel que nous lancerons demain avec une quarantaine d'ONG mondiales lors d'une conférence de presse pour lancer ce plaidoyer. Voilà.
Docteur, professeur Molina, un mot de conclusion ?
Oui, mais écoutez, je crois que dans le domaine de la recherche, qu'il s'agisse de nouveaux traitements pour l'hépatite C ou pour le VIH, je crois que les choses avancent dans la bonne direction. Cette conférence a été également l'occasion de mettre en avant un contrat de collaboration qui a été signé d'ailleurs entre l'Agence nationale de recherche sur le sida et les instituts de santé américains pour essayer de favoriser la recherche dans le domaine de la guérison de l'infection par le VIH aujourd'hui. Donc beaucoup de programmes de recherche vont pouvoir se développer grâce à cette collaboration et on espère effectivement pouvoir dans les années à venir envisager dans cette infection par le VIH, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'hépatite, comme ça a été souligné, espérer atteindre l'objectif de la guérison. Donc je crois que cette conférence est porteuse d'espoir dans ce domaine et il me semble que les travaux qui ont été présentés sont effectivement de très bonne qualité et laissent entrevoir en tout cas un futur plutôt rassurant.
Docteur Karim Diop, un mot de conclusion ?
Je pense que les évidences montrent que nous sommes en face d'un nouveau défi et que nous devons profiter des efforts qui ont été réalisés dans le cadre du VIH-SIDA pour voir comment on peut impacter sur la santé publique et notamment en l'occurrence sur l'hépatite C. Donc c'est important de pouvoir développer des programmes pareils.
Professeur Kazatchkine, avant de vous demander un mot de conclusion, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question de la crise financière. Est-ce que vous avez l'impression que ça met en péril le travail du Fonds mondial aujourd'hui ?
Oui, sans aucun doute. Et en fait, ce sera mon mot de conclusion. Je crois que la faisabilité de tous ceux dont nous avons parlé, que cette faisabilité se traduise effectivement par des progrès, dépend des ressources. Or, si les ressources domestiques, comme on les appelle, c'est-à-dire les ressources que les pays eux-mêmes consacrent à la lutte contre le sida, sont en nette croissance, en particulier en Afrique, ce qui est une très bonne chose, les ressources internationales, elles, sont en grand péril. Alors, c'est évident, on est face à une crise économique et financière sans précédent. La zone euro a beaucoup de difficultés. Ici aux États-Unis, la situation budgétaire est également très délicate et les grands programmes de santé américains vont devoir être réapprouvés pour une durée de 3 à 5 ans par le Congrès en 2013. Tout ça, dans le climat politique et économique actuel, va s'avérer très difficile. Et si nous n'avons pas les ressources, nous ne pourrons pas continuer à progresser. Nous risquons même de revenir en arrière. Et là, j'aimerais rappeler que, et c'est notre plaidoyer à tous, investir dans le sida, la lutte contre le sida, investir dans la santé mondiale, c'est le bon investissement. Pas seulement pour des raisons humanitaires ou éthiques évidentes, mais aussi parce que c'est un bon investissement économique. Beaucoup d'études ici montrent le retour sur investissement économique et sur la productivité du fait d'apporter des médicaments aux gens. Et puis, je suis persuadé que c'est un bon investissement politique parce que nous ne pouvons pas continuer à construire un monde en mondialisation, en globalisation et un monde qui reste fracturé entre les riches et les pauvres.
Professeur Kazatchkine, merci. Merci à tous pour votre participation à cette émission. Merci à Guillaume Munier qui a réalisé toute cette série d'émissions de Washington. Une émission réalisée avec l'appui de l'Union européenne. Et lundi, vous retrouverez Igor Strauss à ce micro en direct parce que je pars quelques semaines en vacances. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt.
RFI à Paris, 89 FM.